Séquence pour comprendre et débattre avec Paul Masson. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes formateur d'adultes, militant de l'éducation populaire, membre d'Attaque et de Culture et Liberté. Alors aujourd'hui, on poursuit notre cycle d'émissions sur le thème démocratie, information. La semaine dernière, vous nous avez notamment parlé des préjugés qui sont véhiculés par un grand nombre de journalistes et de médias dominants.
Oui, et je voulais revenir sur cet aspect de préjugés pour faire voir la manière dont ils se manifestent et dont ils passent par tout un vocabulaire qui revient régulièrement et dont on n'a même pas conscience de tout ce qu'ils véhiculent. Et je vais le faire à travers peut-être deux illustrations.
Alors, première illustration, donc vous évoquez des présupposés, selon vous, justifiant la casse des services publics.
Par rapport aux services publics, et la casse des services publics, on va avoir deux présupposés relativement importants. C'est d'une part, la puissance publique est source de lourdeur. Si c'est public, c'est lourd. Et deuxième présupposé, le marché libre profite tout le temps aux consommateurs. Donc c'est bien évident que si le marché est libre et que la concurrence existe, le consommateur il sera gagnant. Alors, par rapport à ces deux présupposés, je vais prendre l'exemple pour avoir un renseignement sur un numéro de téléphone qu'on cherche. Ça correspond à quelque chose qui vient de se produire. Avant, quand on cherchait un renseignement, on avait un numéro, c'était le 12. On avait affaire à un service public qui était chargé de répondre à ça. Le prix de la communication était connu et dans la mesure où le prix évoluait, l'État avait son mot à dire sur ce prix. Maintenant, on a mis un système de marché, on a mis ça au marché, et vous cherchez le même renseignement, vous voulez savoir un numéro de téléphone, alors maintenant, vous avez 24 numéros de téléphone, qui commencent par le 118, et c'est des numéros à 6 chiffres. Pour ces numéros, sur ces 24 numéros, chaque opérateur fixe ses prix. Et les prix peuvent être différents selon que c'est un téléphone fixe, selon que c'est un téléphone portable. Conclusion, vous allez avoir un nombre relativement important de numéros à mémoriser, à retenir. Et chaque opérateur peut, à tout moment, sans avoir de compte à rendre à personne, la possibilité de modifier ses prix, à la baisse ou à la hausse. Alors voilà la réforme moderne, dynamique, la nouveauté, la grande liberté de choix individuel pour chaque consommateur. Chaque consommateur maintenant peut choisir ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Ça nous est présenté comme une grande avancée au service du consommateur. Est-ce que le coût du service est inférieur ou supérieur à avant? Quel est le consommateur qui peut le savoir? Quel est le coût du service? À la limite, il va lui falloir passer un certain nombre de coups de téléphone avant de savoir quel est le prix du coup de téléphone qui sera le plus intéressant pour avoir son numéro, le numéro qu'il cherche. Donc l'idée que le libre marché profite systématiquement au consommateur, on peut dire que ce n'est pas forcément évident, parce que le consommateur, il a des difficultés à connaître les prix, ce n'est pas sûr que ça lui profite. Et pour ce qui est de la lourdeur, je n'ai pas l'impression qu'on ait enlevé de la lourdeur. Avant, il y avait un numéro de téléphone. Maintenant, on en a 24. Vous voyez comment des choses qui sont présentées comme des a priori, quand on va vous dire ben « bien sûr que le libre marché, ça facilitera les consommateurs », vous allez dire « ben oui ». Lorsqu'on va vous dire « la puissance publique est lourde », ben vous dites « oh ben oui, l'administration c'est lourd ». Ça fait partie des choses qui ont été complètement intégrées, qu'on nous dit, alors que c'est inexact dans un certain nombre de cas. Dans les cas que je viens de présenter, c'est le cas.
Alors peut-être une nuance à apporter par rapport à l'exemple que vous avez choisi, c'est que c'est une libération qui est récente. Donc pour l'instant, 24 opérateurs, vous l'avez dit, mais on peut se penser que dans le futur, seulement les moins chers vont rester. On sait que souvent, donc la concurrence s'établit entre deux ou trois concurrents. Et puis, peut-être rapport de force favorable aux consommateurs, c'est le rôle des associations de consommateurs, par exemple l'UFC.
Effectivement. On vient d'ouvrir le marché Et on peut penser qu'à terme, on aura un certain nombre d'acteurs qui seront éliminés du marché. C'est-à-dire que spontanément, ce qui va se produire, c'est qu'on va tendre à ce que le monopole public soit remplacé par le monopole de deux ou trois grandes firmes d'une puissance énorme. La différence entre le monopole public et le monopole privé, c'est que dans le monopole public, il y a des représentants, des élus, il y a des gens qui ont des comptes à rendre aux électeurs, et ces gens-là ont un souci d'intérêt général. Que dans le monopole privé, la raison d'être de ce monopole n'est pas le souci du consommateur. La raison d'être du monopole, c'est le profit à tirer de l'action. Vous voyez, la différence, effectivement, même si on tend vers un monopole privé, la différence, elle va jouer en termes de qui contrôle, quel est le pouvoir des consommateurs. Dans un cas, c'est le pouvoir des actionnaires, dans l'autre cas, c'est le pouvoir de gens qui ont des comptes à rendre lors des élections. Il y a une autre question qui apparaît là, c'est quel est le contre-pouvoir des consommateurs. Alors, dans cette série d'émissions sur la démocratie, on peut dire que le pouvoir des consommateurs fait partie des droits du citoyen. Et que ce pouvoir, bien entendu, dans une société démocratique, il faut qu'il puisse s'exercer et qu'il s'exerce de la même manière qu'on a affaire à un monopole public ou à un monopole privé. Dans le cas du monopole privé, le consommateur se trouve seul devant l'entreprise. Dans le cas du monopole d'État, on va avoir une articulation à trois pôles où on a l'entreprise, le consommateur et on a la puissance publique qui est différente de l'entreprise et qui a des comptes à rendre au consommateur. C'est-à-dire que même le consommateur a davantage de pouvoir parce que le consommateur, c'est aussi le citoyen que s'il se retrouve seul face au marché par rapport aux entreprises en situation de quasi-monopole.
Alors, deuxième illustration que vous avez choisie pour cette émission aujourd'hui, donc, c'est, vous avez choisi d'évoquer le présupposé selon lequel, le privé est mieux à même de répondre à une demande donc, par rapport au public.
Oui, ça aussi, ça fait partie des préjugés généraux dans un monde, le discours, dans un monde moderne, changeant, qui bouge. Le privé est mieux à même de répondre aux besoins actuels que la puissance publique qui, et je reprends le vocabulaire, qui est lourde, archaïque, fermée, dépassée, rigide. C'est tout le vocabulaire qui va être associé quand on parlera de puissance publique ou quand on parlera de marché privé. Et dans ce cadre-là, eh ben, privatiser les services devient une évidence. Bien sûr qu'il faut faire la réforme pour privatiser. Et là aussi, donc, si on veut un petit peu réfléchir, je prends l'exemple, quel est le grand défi des 50 prochaines années? Le grand défi des prochaines années, ça va être la maîtrise de la consommation d'énergie et ça va être limiter la pollution. On peut dire que c'est le grand défi des 50 prochaines années parce que si on n'était pas capable de le régler dans les 50 années, il en va d'un risque pour la planète. Et par rapport à ça, d'aller dire ce type de défi, laissons jouer les intérêts privés et elles vont le régler. Quelle est l'entreprise privée qui fabrique des moyens de transport, des automobiles par exemple, qui va dire je vais arrêter de fabriquer des 4x4 parce que j'ai le souci de la maîtrise de la consommation d'énergie ou de limiter la pollution. L'entreprise privée qui fabrique de quoi se déplacer va regarder quel est le secteur dans lequel je fais le plus de bénéfices. Le secteur des 4x4 est un secteur particulièrement intéressant pour dégager de la plus-value, c'est un secteur porteur. Les entreprises, parce que c'est leur raison d'être de faire du profit, ne vont pas arrêter de faire ça pour mettre en place un système de transport qui serait moins polluant, moins consommateur d'énergie, mais sur lesquels ils auraient une faible marge. C'est pas pensable Ça ne correspond pas à leur raison d'être. Par rapport à ce nouveau défi, il y a un autre aspect. Si on veut réaliser ce défi, si on veut atteindre cet objectif de moins de pollution et une moins de consommation d'énergie, ça va passer par une réorganisation de l'ensemble des systèmes de transport, par une réorganisation des villes, par une réorganisation des rapports ville-campagne, qui ne correspond pas à une entreprise, mais qui correspond à un projet collectif. Ce projet collectif suppose de très gros investissements, des très gros investissements qui seront rentables à 15, 20 ans, plus pour certains. Comment attendre que l'addition des intérêts de chaque petite entreprise puisse conduire à ce qu'on ait quelque chose de cohérent qui aille là-derrière? On est là aussi sur un présupposé très très ancien, puisque les théoriciens datent du 19e siècle, qui laisserait entendre que la somme des intérêts particuliers produit de l'intérêt collectif. C'est vraiment un présupposé ancien qui est absolument plus du tout fondé. Au contraire, plus la société devient mondialisée, plus la société devient complexe, plus la fonction politique est importante et ça ne peut pas être le marché qui le régule. C'est-à-dire que vous voyez à travers cet exemple comment un certain nombre de questions ne peuvent même plus être posées parce qu'il y a tellement de présupposés que la question ne se pose plus.
Alors quand vous parlez de fonction politique, ce n'est pas forcément le rôle de l'État, hein.
Alors, la fonction politique, là aussi, la fonction politique, c'est la manière dont les forces sociales s'organisent. Ce n'est pas forcément l'État. La fonction politique, elle peut s'exercer à un territoire plus petit que celui de l'État, celui de la région, celui d'une commune, celui d'une communauté de communes, celui d'un quartier. Et elle peut s'exercer à l'échelle supérieure d'un État. Pour un certain nombre de questions, je prends l'exemple que je viens de donner, le territoire le plus pertinent, c'est incontestablement au niveau de l'Europe. Et cette fonction politique aussi doit être pensée à l'échelle du monde. Donc ce type de réponse ne passera pas par renforçons le marché pour réguler le monde, mais au contraire, renforçons le politique pour réguler le monde.
Paul Masson, je vous remercie. On va peut-être, avant de conclure cette séquence, annoncer le programme de la séquence prochaine, donc pour comprendre et débattre le mardi dans Info 30.
Alors, la prochaine fois, on reviendra sur le rôle des journalistes là-dedans, en voyant qu'ils ont un rôle relativement important, puisque c'est eux qui diffusent l'information.